Bonsoir, ce n'est plus un mystère. Bon, est-ce que ça l'a été un jour? En tout cas, vous savez, on en parle depuis une dizaine d'années. Et c'est fait, c'est lancé, le chantier du prélèvement à la source. Alors, simple, pas simple. En tout cas, ce qu'on sait depuis ce matin, c'est une confirmation. Ce sont les entreprises qui seront en charge de la collecte de l'impôt sur le revenu. Alors, les entreprises sont-elles les nouvelles auxiliaires du fisc? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, on va essayer d'être le plus pédago possible, comme on le fait d'ailleurs tous les soirs dans les décodeurs de l'écho. C'est pas simple, le prélèvement à la source. En tout cas, vous me posez beaucoup de questions. On va essayer de vous donner le plus d'explications possibles. En tout cas, compte tenu de ce que l'on sait. Parce qu'on sait pas tout, évidemment, le gouvernement ne nous a pas encore tout dit. Tout à l'heure, à 20h, dans un tout autre sujet, pourquoi les grands théâtres sont-ils dans la cible des chefs d'entreprise, donc, qui les rachètent encore, dernière illustration, Jacques-Antoine Grandjean, vous savez, le patron talentueux de vente privée qui achète quand même sa troisième salle à Paris après la Michaudière, après le Théâtre de Paris, eh bien les bouffes parisiens, on en parlera tout à l'heure dans une quarantaine de minutes. Allez, les entreprises nouvelles auxiliaires du fisc, on en parle bien entendu avec l'avocat fiscaliste Laurent Isal, avec nous également une chef d'entreprise Sophie Dupré, déléguée nationale de la CGPME qui travaille, qui vit à Clermont-Ferrand puisqu'elle dirige là-bas sur place Crousty Pain, et puisqu'on parle d'impôts, de fiscalité, de finances publiques, voici Patrick Coquinet, éditorialiste et économique à BFM Business. Et puis tout à l'heure aussi, parce que les entreprises, elles ont besoin évidemment de s'équiper, on donnera la parole à René Santis, le PDG de EBP Informatique, spécialisé notamment dans les logiciels de paye. Ce sera tout à l'heure, justement, on essaiera de voir comment se fera cette bascule vers le prélèvement à la source. Alors comment est-ce qu'on se prépare déjà dans cette perspective, dans les entreprises, justement, qui sont toutes concernées, bien entendu, à l'échéance 2018. Reportage cet après-midi chez Mobile Networks, c'est à Boulogne-Billancourt, de Isabelle Gollens, avec Hélène Dany pour les décodeurs de l'écho.
L'entreprise de Paul Amselem compte 35 salariés en France et donc 35 contribuables. À partir de janvier 2018, ce chef d'entreprise va devoir gérer le prélèvement de l'impôt sur le revenu de ses collaborateurs.
Ça va demander des modifications des logiciels, forcément de paye. On est déjà collecteur d'un certain nombre d'impôts. Bien sûr que ça pèse, mais comme les effets de seuil, à partir du moment où on dépasse les 50 salariés dans une entreprise, c'est un problème. Comme le fait à un moment donné de gérer des fiches de paye avec 50 entrées différentes, bien sûr, tout ça ne facilite pas la création de valeur et le fait d'être concentré sur le fait de faire du business.
Un peu de charge en plus, mais pour une bonne cause, c'est en tout cas ce que pense le directeur financier de cette société, implantée aussi en Italie et en Allemagne, des pays où le prélèvement à la source existe depuis longtemps.
Par expérience, je sais que ça fonctionne très bien et globalement, les salariés étrangers sont très contents étant donné que l'argent qu'ils ont à la fin du mois, c'est l'argent qu'ils peuvent dépenser sans se poser trop de questions comme on peut avoir à le faire en France.
Le plus gros changement, ce sont les salariés qui vont le vivre. Tous les mois, leur impôt sera directement prélevé sur leur fiche de paie. Najette travaille ici depuis un an et demi et pour elle, c'est plutôt une très bonne nouvelle.
On a souvent des mauvaises surprises parce qu'on a beau faire des calculs, essayer de faire des simulations, on a toujours des mauvaises surprises et l'argent qui nous reste à la fin du mois, on sait que c'est pour nous.
Et si en cours d'année, la situation du salarié change de façon notable, s'il a un enfant par exemple, ou s'il subit une forte baisse de ses revenus, ses impôts seront ajustés.
Voilà, reportage donc chez Mobile Network, reportage signé Hélène Dany et Isabelle Gollens pour BFM Business, pour les décodeurs de l'écho. Patrick Coquinet, Laurent Isal, on va essayer d'être très pratique, on va commencer avec vous les deux garçons, donc sur ce prélèvement à la source justement. Patrick, est-ce qu'on remplira toujours une déclaration de revenus?
Ah oui, on déclarera toujours ses impôts. Enfin, plus exactement, on les télédéclarera parce que à partir de cette année, dans quelques semaines,
obligatoire,
commencer
informatique,
au mois d'avril, on sera obligé de télédéclarer, c'est-à-dire de remplir une déclaration sur votre ordinateur que vous enverrez au fisc comme avant. Ça ne change pas simplement. Ce qui change, c'est une partie de la collecte de l'impôt sur revenu. C'est tout.
Mais on continuera de dire, eh bien, si on verse une pension alimentaire, si on est une femme de ménage,
bien
si on a des revenus fonciers, etc. Ça, on continuera
ça
le dire.
Pas, bien sûr.
Laurent Isal, qui sera concerné par le prélèvement à la source?
Seuls les salariés de l'entreprise.
Oui.
il n'y aura...
Les retraités quand même.
Oui, les retraités, bien sûr. D'ailleurs, oui. Ça pose un problème pour les caisses de retraite de faire cette retenue à la source. Mais grosso modo, les salariés d'entreprise sont seuls concernés parce que d'abord, les autres n'ont pas de retenue à la source puisqu'ils n'ont pas d'employeur. Par nature.
Ah, alors, pardon, mais les indépendants, par exemple. Oui, Sophie Dupré.
Si, les indépendants sont concernés clairement dans les textes.
Sont salariés.
Non, clairement dans les textes, ils parlent d'acompte.
Ouais, alors donc c'est pas une retenue à la source, pas une retenue à la source, c'est un acompte. Si c'est un acompte, c'est donc pas un impôt libératoire en quelque sorte.
Ah ben voyez, c'est déjà pas très simple. Voilà, dès le début de l'émission, Patrick Coquidet.
Non, c'est vrai que les deux ministres ce matin ont parlé des indépendants, mais alors les indépendants, effectivement, ils seront eux soumis à des acomptes tous les mois, en fait comme les salariés, comme les autres contribuables qui payent l'impôt par prélèvement mensuel. Mais ils n'étaient pas obligés de le faire. Désormais, ils seront obligés de payer tous les mois. Le fisc prendra tous les mois le 12e de leurs revenus. Mais effectivement, c'est pas du prélèvement à la source.
Et puis il y aura évidemment des déclarations complémentaires pour tenir compte de tout un tas de paramètres qu'on expliquera peut-être tout à l'heure.
Donc ça sera peut-être pas forcément plus simple pour le contribuable. Moi, je m'imaginais que de quelque chose de très simple. Patrick Coquidet.
Oui, c'est vendu comme tel. C'est plus simple. C'est plus, il y a plus de justice.
C'est plus transparent. C'est plus rapide.
Effectivement, en fin d'année, il y aura toujours un rendez-vous parce que effectivement, le fisc regardera si ce sera en général au mois de septembre. Est-ce que le salarié a assez payé ou trop payé par rapport à ce qu'il nous a envoyé comme déclaration?
Est-ce que cette situation a changé? Voilà.
Et on modifiera effectivement à ce moment-là le quantum qui est pris sur la feuille de paye.
Laurent Isa, l'avocat fiscaliste.
Franchement, l'idée est excellente. Elle existe déjà. La CSG, la CRDS est déjà, évidemment, ce sont deux impôts qui sont prélevés à la source. Donc pourquoi ne pas en faire une troisième? On aurait pu imaginer d'ailleurs une fusion CSG-CRDS impôt sur revenu, mais le problème c'est que tant qu'on réformera pas l'intégralité de la fiscalité française, cela veut dire qu'il y aura d'autres types de revenus qui seront taxés de manière différente et il faudra bien en tenir compte. On a des milliards d'exemples.
Oui, mais est-ce que l'impôt il va continuer d'être calculé au niveau du foyer fiscal, même si les conjoints ils ne travaillent pas dans la même boîte, ce qui arrive quand même assez souvent quand même, qu'on ne travaille pas dans la même boîte, et s'ils ne gagnent pas la même chose, comment ça va se passer? Ça a l'air d'être compliqué, ça, Laurent Isa.
Vous posez un problème énorme, évidemment, mais qui vient tout de suite alerter sur la problématique de confidentialité. C'est un mensonge incroyable que de dire qu'il y aura une confidentialité sur la transmission des taux, puisqu'il suffit de recalculer le taux par rapport à un revenu pour savoir exactement qu'il y a d'autres types de revenus qui viendront se greffer sur la déclaration du salaire. Donc, on voit bien que là, il y a potentiellement un déséquilibre.
Parce que c'est vrai que Bercy dit, l'employeur ne connaîtra qu'un taux d'imposition qui, à lui seul, ne révélera pas les revenus d'un foyer. Mais c'est vrai que le patron, à partir du pourcentage que le fisc va lui communiquer, il va pouvoir voir si le salarié est aisé ou pas. Et si je veux voir une augmentation, si je veux demander une augmentation à mon patron, le patron va dire, attendez, combien vous avez? Ah, vous avez un taux d'imposition de 30, de 40%, passez votre chemin, mon brave, c'est un peu ça, non?
Absolument, c'est exactement cela. Ouais. Donc ça crée d'autres problèmes de pression, et je suis pas sûr que ça va passer.
Sophie Dupré, vous me faites des gros yeux?
Oui, un salarié qui hier gagnait 1000 euros de SMIC, demain, est-ce qu'il ne va pas gagner que 900 euros? Parce que simplement, l'entreprise qui sera considérée comme le collecteur et qui va lui faire baisser son salaire, si vous voulez, les gens ils raisonnent naïvement et ils regardent le net. Aujourd'hui, les entreprises ils parlent plus en net qu'en brut.
Tout juste, ouais. Patrick Coquidet.
Il faut quand même bien rappeler qu'en France, vous n'avez pas un Français, un contribuable sur deux qui paye l'impôt sur revenu. Hein, on n'est qu'à 47%. Donc vous avez la majorité des contribuables français qui ne sont pas concernés finalement par cette réforme puisqu'ils ne payent pas d'impôt. Donc on va leur prendre zéro.
Voilà. Et puis l'égalité devant l'impôt me paraît aussi très très attaquée. Les salariés ne paieront absolument pas l'année de transition un seul euro. Pendant que d'autres, évidemment, continueront de
payer. Alors, attendez, là, parce que là, on grille les étapes, Laurent Isal, parce que là, j'aurais vraiment qu'on essaye de comprendre, parce que c'est toujours ce décalage ou pas, j'en sais rien. Patrick Coquidet, justement, en général, le contribuable s'acquitte de ses impôts sur les revenus
de l'année antérieure.
Exactement. Ça, on sait très très bien. Bon, qu'est-ce qui va se passer le 1er janvier 2018? Je paye deux fois, donc?
Ah, alors, c'est ce qu'on appelle l'année blanche, effectivement. Le problème, ce n'est pas 2018, c'est 2017. Parce qu'en 2017, on finit le système actuel et on va commencer le nouveau. Alors, en 2017, il faut être très précis, on va payer des impôts...
Sur 2016, sur les revenus 2016.
Tout à fait normalement.
OK.
Et en 2018, on payera des impôts sur les revenus de 2018.
2018.
Voilà. Alors, le fisc ne va pas prendre, va pas taxer les revenus de 2017, ne va pas taxer les revenus salariaux de 2017, mais il va taxer les revenus non salariaux de 2017.
Malin.
Et ça, les contribuables le paieront en 2018, en même temps que les autres revenus.
Oui, parce que Laurent Izal, ce que dit Patrick Coquillet, en effet, ils ont pensé à tout, Bercy. Ils sont très intelligents, ils sont très méfiants aussi, bien sûr. Parce que si je fais une super opération immobilière, par exemple, une opération boursière en 2017, qui me rapporte beaucoup d'argent, je paierai quand même, bien sûr, dessus en 2018.
L'intégralité des revenus mobiliers, fonciers, seront taxés.
Pas d'effet d'aubaine.
Aucun. Évidemment, là, ça pose un problème sur l'impôt sur le revenu du salaire, mais je ne suis pas sûr que Bercy ne trouve pas une solution pour se rattraper un peu plus tard.
Ouais. Sophie Dupré, chef d'entreprise.
Ça fait plaisir quand même de ne pas payer d'impôt sur nos revenus 2017. Ça, par contre, c'est, je dirais, presque la seule bonne nouvelle pour nous.
Oui. On verra justement.
Oui, c'est vrai.
On verra si
un peu naïf.
On verra, oui, si on est un petit peu naïf ou pas, parce que j'imagine que il y aura quand même un petit rattrapage. On verra ça tout à l'heure avec vous, Patrick Coquillet. Le principal intérêt, quand même, du prélèvement à la source, c'est quoi finalement?
Avoir une visibilité.
Laurent Izal.
Alors, vous savez, c'est un peu comme les recettes. Moi, j'aime bien savoir quel est le chiffre d'affaires qui va venir. Donc, ça veut dire, pour l'État, savoir quelle est la collecte de l'impôt, c'est très important. Et c'est pour ça que ce n'est pas une mauvaise idée, la retenue à la source. Il faut revenir juste, encore une fois, dans le contexte politique dans lequel nous sommes. Et donc, veille des élections présidentielles, je pense que c'est un pavé qu'on va jeter dans la mare pour créer un débat, évidemment, à la rentrée, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir appliquer et être prêt à mettre en place ce système.
Bon, on verra ça justement, s'il y a une magouille politique derrière, ça fera partie des questions qu'on se posera tout à l'heure. Moi, je voudrais qu'on reste évidemment sur le fonctionnement. Les entreprises, hein, Sophie Dupré, vous êtes déléguée nationale de la CGPME, chef d'entreprise à la tête de Crostipin.
Futur fonctionnaire.
Pourquoi? Ah bah oui. C'est ça, vous assumez votre statut de futur fonctionnaire?
Ah bah écoutez, il va falloir, je crois qu'on n'a pas le choix là,
bon,
c'est fait. Hein.
Vous écouterez bien demain ce qui va être annoncé par le gouvernement pour les fonctionnaires, parce que vous allez gagner plein d'argent.
Attendez, on va attendre ça.
Bon,
oui.
On verra ça. Bon, très bien. En effet, les entreprises auxiliaires du fisc, justement, est-ce que c'est une charge à vos yeux pour les entreprises, donc à venir à partir de 2018
hein? Enfin, c'est énorme ce qui nous est demandé. Bon, déjà, quand on voit le nombre de contribuables à Bercy, quand on voit ces immeubles énormes et que demain on dit stop, c'est les entreprises qui vont faire les appels fiscaux pour les entreprises. On va gérer la fiscalité de nos salariés. Croyez pas déjà qu'on a autre chose à faire, s'occuper de nos clients, notre business, que d'aller gérer la fiscalité de nos salariés. Bon, ça, ça semble un peu évident que notre métier premier, c'est absolument pas celui-là. Deuxième problème, c'est qu'on va avoir une relation avec nos salariés complètement biaisée, complètement différente. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, celui qui gagnait hier 1000 euros, peut-être qu'il va gagner 900 demain, donc ça va être moi le responsable. Il va falloir que je fasse de la pédagogie, il va falloir que j'explique, parce qu'il y a des gens qui en bossent. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous lui faites son chèque et qu'il y a moins, ils ne suivent pas forcément BFM, la télé, malheureusement, etc. Celui qui est chef, qui gagnait peut-être 1200 hier, et celui qui n'était pas chef, qui avait 1000 euros, peut-être que demain, ils auront tous les deux le même chèque. Et qui sait qui va être l'interlocuteur pour se plaindre? Croyez qu'ils vont aller voir à Bercy pour se dire pourquoi? Ça va être moi.
Voilà, vous expliquez que l'un a un taux d'impôt plus élevé que l'autre. Donc finalement, au final, le salaire de l'un et de l'autre vont se croiser.
Et concrètement, il va falloir que j'entame une discussion pour lui expliquer, votre mari, est-ce que vous avez pensé à faire régulariser si votre situation a changé? Parce qu'aujourd'hui, on leur prête de l'argent pour leur frigo, on les accompagne quand ils ont des enfants, etc. Et donc là, il va falloir qu'on gère la famille. Parce que concrètement, moi, mon intérêt, c'est qu'ils payent un minimum d'impôt sur le revenu parce que ça va être moi l'interlocuteur. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que j'aille discuter avec eux. Alors, voilà, nous, on ne veut pas rentrer là-dedans. On veut que ça reste confidentiel. On ne veut pas avoir affaire à ça. Mais concrètement, dans les petites entreprises, le quotidien de notre boulot, ça va être d'aller leur expliquer ce qu'il faut qu'ils aillent faire au niveau du fisc.
Tout ça est très complexe, en effet. On le comprend. Mais heureusement, Michel Sapin se veut rassurant. On écoute le ministre des Finances.
La seule administration, la seule personne qui connaîtra la situation fiscale d'un foyer, en termes de composition du foyer, ou en termes de revenus, de diversité des revenus, c'est comme aujourd'hui l'administration fiscale, qui est, comme vous le savez, je crois vraiment que c'est une des administrations exemplaires dans ce domaine-là, qui est garante du secret, de la confidentialité des informations qui lui sont données. C'est très important, parce que ça facilite la vie aussi pour les entreprises, et ça rassure les salariés ou les contribuables, car les informations, elles ne peuvent pas être connues comme ça de tout le monde. on doit pouvoir les protéger. Elles seront protégées.
Bon, ben voilà, Sophie Dupré, voilà, vous êtes convaincue ?
Alors, le premier mois, d'après ce que l'on m'a expliqué, nous n'allons pas appeler ce taux d'imposition parce que le fisc n'aura pas eu le temps de nous le dire. Puisqu'on ne va pas le demander aux salariés, pensez bien, on passe par Bercy. Bercy, il faut le temps que ça, la machine elle sache qu'on l'a embauché. Peut-être qu'il sera parti le salarié entre-temps. Donc, tant pis. Ah. Donc là, a priori, on n'appelle rien. Donc mon salarié, je lui donne ses 1 000 euros. Le mois A, admettons. Mois B, Bercy va me dire dans mon petit logiciel, pouf, il paraît que celui-là, il faut lui prendre 20% de son salaire. Hop, mois B, monsieur, vous avez un chèque de 800 euros. Je ne sais pas pourquoi. C'est confidentiel. Demandez au seigneur, appelez le 0800. Moi, perso, j'applique ce qu'on me dit et j'ai ordre, confidentialité, de ne pas vous en dire plus.
Ah ben ça va être agréable. Patrick Coquidet, comment le gouvernement il va convaincre les entreprises? Parce que là, quand on écoute Sophie Dupré, qui est déléguée nationale de la CGPME, apparemment, c'est un énorme problème qui va arriver. Ça va être des tiraillements.
Les entreprises sont déjà collecteurs d'impôts. Elles collectent le premier impôt français, c'est la TVA, 145 milliards.
Oui.
Elles collectent aussi indirectement les cotisations sociales.
CSG, CRDS.
Voilà, CSG. Ouais. Hein, alors, si demain on fait une fusion, on en reparlera peut-être tout à l'heure, de CSG et de l'IR, bon, on est déjà dans la première étape. Mais il y a un aspect psychologique qu'on vous l'évoquiez concernant les salariés, c'est que à la fin du mois, la feuille de paye, elle va être sacrément allégée, parce qu'il y aura les impôts en moins. Alors certes, ils ne les payeront pas par ailleurs, mais psychologiquement, ça va sans sûrement inciter les salariés à revendiquer un peu plus de salaire direct de la part de l'employeur, parce que il y aura un manque à gagner.
Ah oui.
Qui sera compensé ensuite. Mais psychologiquement, c'est important.
Oui, mais ça va durer quoi? 2 mois, 3 mois, ça peut-être, Sophie Dupré. C'est vrai, quand on va voir la feuille de paye amputée de 20%, de 30%, je ne sais pas, selon les cas. Oui, ça va faire mal au début. Mais après, bon, on va peut-être s'y habituer, non?
Le problème, dans une entreprise comme la mienne, où il y a beaucoup de jeunes, ouais, et un peu de turnover, on a affaire qu'à des gens qui découvrent la vie, qui découvrent la sécu, qui découvrent les impôts. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes, la première année, ils ne payent pas d'impôts. Ensuite, on leur explique, ils s'attendent, ils se préparent éventuellement à payer l'année d'après. Là, d'un seul coup, dès le premier mois, il va y avoir ces histoires qui vont se mettre en place, qu'il va falloir quand même accompagner, expliquer. Et puis, on va quand même avoir le problème des changements, ceux qui sont un peu précaires ou qui changent de société. Il va y avoir probablement l'administration, elle ne tire pas au premier coup comme ça. Dès qu'on leur pose une question, ils ne vont pas nous répondre.
Elle n'est pas aussi réactive que
aujourd'hui,
on le souhaiterait. Laurent Izal, avocat fiscaliste.
Le monde de l'entreprise aujourd'hui a totalement été réévolutionné par un système d'aller et venu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salariés, les jeunes start-upers, bref, la jeunesse passe d'une entreprise à l'autre tous les 2 ans.
Ouais.
Et donc, ça bouge. Pendant une dizaine d'années, je ne sais pas comment ça va se matérialiser, parce que l'apaisement social, c'est-à-dire en fait rester dans une société, ce n'est plus comme avant. On ne reste pas 10 ans, 15 ans, on ne fait pas toute une carrière dans la même entreprise. Donc je me demande comment tout ça va être traité, comment la confidentialité va vraiment être préservée au fur et à mesure. Donc ça va créer des problèmes.
Alors, dans le détail, concrètement, le fisc va nous informer en fin d'année 2017 du taux de chacun de nos salariés déclarés à l'époque,
oui,
pas les nouveaux. En 1er janvier, on va donc déduire des feuilles de paye d'un seul coup les 7% qui, soi-disant, seraient le taux de référence de nos salariés, soit. Ensuite, quand les salariés vont donner à l'administration fiscale leur situation passée, ils vont recalculer ce taux qui peut passer de 7 à 20 à 15, on ne sait pas, et ils vont nous communiquer au mois de septembre le nouveau taux qui va tenir compte de ce qui a été payé précédemment, qui va être un réajustement des 9 mois précédents. On va solder, en fait, sur les nouvelles feuilles de paye, ce qui n'a pas été payé avant, ou le trop payé. Donc il va falloir que j'explique à mon petit gars, là. Tu dis hier, tu avais 1 000 euros, mais attention, pour Noël, là, je suis désolée, mais tu n'auras que 700. Ah, mais pourquoi? Ah, ben j'imagine qu'il s'est passé quelque chose l'année dernière. Est-ce que ton conjoint n'a pas fait ci? Est-ce que tu n'as pas eu quelqu'un qui ait un revenu? Et voilà, parce que l'interlocuteur, celui qui donne le chèque, eh ben c'est moi.
C'est vous. Ça va être compliqué, justement, de ne pas mettre un pied dans la vie privée, donc, du collaborateur.
Si
ou
on ne le fait pas, c'est nous qui allons être accusés d'être responsables de la baisse ou de l'augmentation de sa feuille de paye ou des inégalités entre eux. Si on avait appliqué un taux pour tout le monde de 10 points, allez, Inch'Allah, je dis 10, pourquoi pas. Après, le fisc fait son affaire avec les contribuables, de plus, du moins,
oui, etc.
Mais au moins, on met l'équité. Ah, oui. Même s'il y a des inégalités fiscales, souhaitée par l'État actuellement, parce que c'est tellement compliqué, je ne sais pas pourquoi, on a tous des taux différents des fois pour gagner la même chose, eh bien, ça aurait été plus simple. Mais là, nous faire un taux par personne, qui sera faux, parce qu'il sera appelé sur des revenus passés. Ensuite, on reprendra les revenus éventuellement en compte, sans forcément prendre en compte les revenus de placement, enfin, ce qui peut se passer. On nous a dit, alors que, bon, je vous ai expliqué, des deux échéances, 1er janvier, septembre. Mais s'ils se marient, s'ils divorcent, s'ils trucs, s'ils machins, l'administration va nous renvoyer un petit mail ou via la DSN en disant, hop, 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 vous rechangez une troisième fois le taux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se demander, mais comment se fait-il? Vous êtes trompé, vous m'avez mis des heures d'absence, ou il va m'accuser, moi, d'avoir mal calculé son brut. C'est vrai qu'on peut se tromper parfois sur des heures supplémentaires. Bon. Et donc, il va y avoir la suspicion, parce qu'ils n'arrivent pas à lire leur feuille de paye, tellement c'est compliqué. L'interlocuteur qui va falloir expliquer la feuille de paye, c'est moi. Et si je ne le fais pas, je crée une frustration, je crée, c'est moi le responsable, c'est de ma faute, etc. De même, si je me trompe, quand je vais saisir mes salariés, hop, je rip, au lieu de 15, je mets 5. L'année d'après, quand le fils va lui dire, hop, hop, il va dire, c'est pas de ma faute, c'est l'employeur. Moi, je vais dire, oui, c'est vrai, j'ai appelé que 5 au lieu de 15. Et qui c'est le fautif? Et qui c'est qui peut pas payer? Qu'il va falloir verser un acompte, préjudice, pourquoi pas prud'homme, j'en sais rien, contentieux, etc., etc.
Laurent Isal, vous êtes avocat. Ça va être hyper compliqué pour un employeur de ne pas mettre, de ne pas regarder ce qui se passe dans la vie de ses salariés.
Je pense que vous avez très bien expliqué ce qui va se passer. Donc, on va rencontrer des problèmes. Alors, évidemment, sur la partie purement fiscale, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas complètement noircir le tableau.
Si non, parce que là, on noircit, là, clairement.
On noircit sur,
parce que le système, il existe ailleurs. On verra ça tout à l'heure avec Delphine Liu, elle nous l'expliquera. Ça existe dans des tas de pays de l'OCDE développés comme le nôtre.
Je pense que c'est l'évolution normal, oui, et il va falloir s'y adapter. Ce que nous pouvons reprocher au gouvernement, c'est de faire les choses à l'envers. Il aurait été plus facile de réformer la technique fiscale, l'assiette fiscale, les ressources, pour ensuite mettre en place une organisation administrative. Comment je collecte? La TVA, pourquoi ça pose pas de problème? Parce que c'est simple. J'envoie une facture, je collecte la TVA, je la reverse, je déduis en fonction. C'est très simple. Là, on est dans des paramètres très individuels. Comment gérer une problématique individuelle par une collectivité qui en plus a délégué sa mission donc à l'entreprise, parfois à la banque? Donc on est face à un monstre administratif à cause d'une fiscalité compliquée.
Pour qu'on comprenne bien, on verra ça dans un instant avec René Santis à la tête de EBP Informatique, qui conçoit des logiciels de paye. Je pense que, voilà, deux ans qui vont arriver jusqu'en 2018, il va bosser comme un dingue justement pour mettre tout ça sur pied. Juste une question, Patrick Coquillet, pourquoi on sollicite les employeurs plus que les caisses de retraite, plus que les caisses d'assurance chômage, plus que les banques, hein?
C'était une option. Les banques, elles collectent bien des impôts sur les revenus patrimoniaux. Donc, on pouvait le faire. Le gouvernement a choisi les entreprises. C'est vrai que dans les autres pays, c'est plutôt aussi les entreprises qui collectent. Il faut le reconnaître. Alors, effectivement, ça, ce serait à demander à Michel Sapin. Il n'a pas voulu répondre, d'ailleurs, sur cette question. Mais c'est vrai que ce n'est pas une réforme fiscale, comme vous venez de le dire.
Non,
c'est
non.
Une réforme technique de la fiscalité, mais ce n'est pas une réforme fiscale. Ça, c'est clair.
Allez, Sophie Dupré, encore les caisses de retraite sont sollicitées au même titre que les entreprises.
Oui, pour les retraités.
Bien sûr.
Oui,
mais pour les retraités.
Pas les banques, peut-être pour les actions, les placements, on ne sait pas encore les modalités. Aujourd'hui, il y a le prélèvement libératoire qui peut être à nouveau actionné. Mais au niveau des caisses de retraite, par contre, il semblerait que déjà, elles n'arrivent pas à verser les retraites en temps et heure aujourd'hui. Au niveau du RSI qui est concerné, ils ne sont pas prêts, ils l'ont signalé hier. Hein.
Le RSI, c'était déjà super compliqué avant, ça sera méga compliqué ensuite, c'est ça, Sophie Dupré?
Pire que ça,
voilà.
Je suis pas sûr que ça marche.
Toutes les caisses comme la CIPAV, le RSI, tout ça, on va encore attendre beaucoup, 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 beaucoup.
Et toucher moins.
Oui, les entreprises, nouvelles auxiliaires du fisc, hein, question posée ce soir au décodeur de l'écho. Et vous revenez tous dans un instant sur BFM Business. À tout de suite, bonne soirée.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors, si j'ai bien compris, donc, en 2017, je paierai des impôts donc sur ce que j'ai gagné en 2016. Et en 2018, je paierai des impôts sur ce que je gagne en 2018. Hein. C'est-à-dire ce que j'ai gagné en 2017, a priori, je ne paierai pas d'impôt dessus. En tout cas, sur mes salaires, hein, si j'ai fait une super opération boursière, si bien sûr le fisc me rattrapera évidemment. Mais voilà, c'est le prélèvement à la source, hein, mise en opération donc le 1er janvier 2018. Et la nouveauté du jour, c'est que on a appris que ce sont les entreprises, hein, qui seront bien en charge de la collecte de l'impôt sur le revenu pour les salariés, les caisses de retraite pour les retraités, le RSI pour les indépendants, etc. Voilà, c'est le système. Hein. Les entreprises, nouvelles auxiliaires du fisc, point d'interrogation. Bonsoir René Santis.
Bonsoir.
On continue avec vous, vous êtes le PDG de BP Informatique. Hein. Vous fabriquez toutes sortes de logiciels, et notamment des logiciels de paye. Alors, on est mi-mars 2016. J'espère, j'imagine qu'il y a un compte à rebours qui se prépare, qui s'organise d'ici le 1er janvier 2018. Vous n'allez pas chômer pendant un an et demi, hein ?
Absolument. Mais je dois dire qu'on a déjà anticipé, parce que d'abord, on est en contact avec Bercy, donc on a un dialogue constant. Ils nous ont interrogés, ils ont eu l'intelligence quand même de nous interroger. Et donc les principaux éditeurs du marché se sont interrogés et ont posé des questions à Bercy. Donc on a pu quand même anticiper largement. Et on a surtout...
Et vous y voyez clair ?
Assez. Ah. Je vais être assez serein parce que bah, finalement c'est assez technique. Hein. Donc nous, en tant qu'éditeurs, on aime les aspects techniques.
Oui. Vous régalez quoi en fait.
Presque. Et puis bon, on a aussi des équipes de développement, on a des plateformes de développement qui ont été prévues, qui ont anticipé toutes les évolutions législatives. Et donc on anticipe. C'est notre job d'anticiper en permanence sur les évolutions. Et ça fait 30 ans qu'on anticipe sur les évolutions. Et c'est grâce à cela que l'on a réussi quand même à surnager parmi les nombreux éditeurs.
Alors, René Santis, hein, vous êtes le PDG de BP Informatique. Vous avez devant vous une chef d'entreprise, Sophie Dupré, déléguée nationale de la CGPME, qui est elle-même chef d'entreprise Croustipain à Clermont-Ferrand, donc en Auvergne. Et c'est de la rassurer, et c'est de lui dire que c'est pas aussi compliqué que ça, non ?
Ah ben, je vais essayer, oui. Surtout si elle utilise nos logiciels.
Non, mais au-delà de votre logiciel EBP, qui doit être le meilleur du monde, j'imagine, mais enfin, au-delà de ça, il n'y a pas que vous.
Oui.
Comment est-ce que vous pouvez rassurer ?
Alors, sur les aspects purement comptables, purement techniques, c'est assez simple. Effectivement, je ne vais pas la rassurer sur les aspects sociaux, sur les problèmes qui pourrait y avoir, les incompréhensions qui pourrait y avoir
avec les salariés, vous avez entendu tout à l'heure, bien
absolument.
Entendu.
Hein. Ça, hélas, on n'y pourra rien. Ouais. Et ça, là, je ne suis pas devin, je peux rien dire quant à la... Et puis, il peut y avoir aussi d'autres réformes derrière. Donc, il y a quand même pas mal de zones d'ombre.
Ouais. Sophie Dupré, en tout cas, le gouvernement envisage de faire des tests hein, avec des panels d'entreprises. Vous êtes portée candidate, vous avez été retenue ou pas ?
Voilà, j'ai été proposée par la CGPME.
Ah bah super, bah très bien. Vous allez tester. Ça va ressembler à quoi justement ? Combien de temps ça va prendre ? Vous allez vous lancer à partir de quand ?
Eh bien alors on attend le feu vert de l'État. Le problème c'est que ces tests que j'espère seront faits également dans les caisses de retraite et pour les indépendants, puisque moi je suis indépendante donc je suis prête à également faire ce test pour le RSI. Le gros problème c'est que ça ne pourra fonctionner que quand monsieur sera prêt, quand tous les éditeurs de logiciels pourront nous donner l'outil. Comment vous voulez qu'on simule quelque chose si l'outil n'est pas prêt ? Donc, il faudrait que monsieur, vous accélériez votre calendrier, je crois.
Pas tout à fait, mais...
À quel moment la bascule peut se faire ?
Alors, techniquement... je vais revenir un peu en arrière. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur quelque chose qu'on appelle la DSN, c'est-à-dire la déclaration sociale nominative, qui est un très gros chantier, et qui va obliger les entreprises à passer dans le courant de cette année-là, 2016 et en 2017, pour la quasi-totalité, à une déclaration nominative, à un flux permanent en direction de l'administration et des caisses de retraite, de l'URSSAF, etc. Donc avec le fisc, donc il y aura un concentrateur qui va donc recevoir toutes les informations quasiment, enfin que ça peut être toutes les semaines, une modification dans un contrat de travail, ça sera télétransmis. Et puis l'administration, en retour, va émettre des messages d'erreur, va vous poser des questions. Donc ces messages, on va les recevoir dans le logiciel. Donc il y aura comme un dialogue machine to machine, comme on dit en langage technique, qui va permettre donc de recevoir les informations sur le prélèvement à la source et de l'opérer au moins le mois si c'est nécessaire. Et le fisc pourra toujours faire une régularisation de mois par mois avec des moyennes. Enfin, ça va être assez
compliqué. Faire en sorte que ça soit extrêmement réactif, c'est ça. Parce que la crainte tout à l'heure de Sophie Dupresse, c'est, voilà, il y a des informations dont elle sera pas forcément au courant et puis dont elle sera au courant quelques mois après. Donc, il va falloir évidemment réadapter. Là, ce que vous nous dites, vous nous promettez, donc, a priori, les éditeurs de logiciels de paye comme vous, EBP, Bercy également, vous saurez être réactif, quasi instantané peut-être.
Quasi. Alors, à partir du moment où on aura le cahier des charges un peu définitif, parce qu'on ne pourra pas non plus faire des itérations, mais dès qu'on aura le cahier des charges, on a des équipes de développement assez importantes, donc on pourra les mobiliser immédiatement. Et je pense que sans vouloir m'avancer, en 3-4 mois, on peut sortir un logiciel de test.
Patrick Coquidet, la bascule, elle se fait comment ? On appuie sur un bouton ou ça nécessite du temps quand même d'adaptation ?
Oui, mais comme dit monsieur, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet. Mais se pose une question plus financière, c'est est-ce que l'État va aider les entreprises à s'équiper ? Alors pour l'instant, on est dans le flou, parce que ce serait plutôt non, mais on ne sait pas sûr. Mais est-ce qu'il y aura une aide sous
c'est
une forme ?
C'est l'époque des cadeaux en ce moment.
Voilà,
pour les jeunes, voilà. Pour les fonctionnaires. Ça serait peut-être bien aussi d'en donner un peu aux chefs d'entreprise.
Je ne suis pas sûr que ce soit le logiciel.
Laurent Isal, avocat fiscaliste.
Je ne suis pas sûr que ce soit le logiciel qui pose problème, puisqu'il y aura des mises à jour automatiques. Ce que je crois, c'est que ça va donner du travail à l'entreprise. En plus, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être recruter derrière l'écran, parce qu'il faut quand même renseigner l'écran, recevoir l'information et la traiter.
Sophie Dupré de la CGPME.
Concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Jusqu'à présent, tout le monde avait les mêmes taux, les mêmes cotisations. C'était compliqué, mais allez.
C'était uniforme.
C'est uniforme. Donc demain, il va falloir faire un traitement différencié par salarié, mettre à jour par salarié. Ça, c'est une difficulté. Mais la grosse difficulté, monsieur, c'est ces histoires de flux entrant sortant. Formidable, je programme ma machine, je saisis tous mes salariés. Ah, mon disque dur brûle. Je n'ai pas fait de sauvegarde. Mon ordinateur ne marche pas, je n'ai pas de connexion Internet. C'est le quotidien d'un chef d'entreprise. Ça ne choque personne. Qu'est-ce que je faisais hier ? Je prenais ma tablette Excel. Allez, ça m'est déjà arrivé, hein, ce cauchemar. Ça, c'est quand même, tout le monde a eu une fois, pas de sauvegarde, son ordinateur qui grille. Je peux faire quand même payer mes salariés avec un bulletin uniforme fait sous Excel, éventuellement au moins pour le net, le temps qu'on repaye quelqu'un pour re... Bon. Mais alors, il va falloir que j'aille rechercher mes informations qui ont disparu de mon disque dur. Imaginez le truc de folie que ça risque d'être.
Alors là aussi,
on a senti ce BP informatique.
Alors là aussi, on a anticipé ce genre d'événement et on propose des solutions de sauvegarde intégrées dans notre service. On a un service qu'on va appeler privilège, qui va, je dirais, décharger autant que possible l'entreprise de tous ces genres de soucis. Donc sauvegarde, on pourra même également...
premium, c'est du supplément, voilà. Ce sont des coûts.
Ce sont des suppléments, bien sûr. Et il y aura également la possibilité d'avoir une offre dans le cloud. C'est-à-dire, là, il n'y a pas de disque dur, c'est dans le cloud.
On ne va pas rentrer trop dans le détail, Sophie Dupré. Juste encore un mot, parce que je voudrais, après, que vous nous disiez quels sont les exemples réussis de prélèvement à la source. Parce que j'imagine, vous avez regardé un petit peu Renaissantis tout autour. Allez-y, Sophie
Dupré. J'ai calculé pour mon entreprise. Une heure par salarié de plus, 5 minutes par bulletin de paye, ça fait 0,4% de la masse salariale. Voilà le chiffre. De mon entreprise.
Dans une entreprise de combien de salariés, donc ?
100 salariés.
100 salariés, ça va coûter 0,4% de la masse salariale.
Si c'est simple.
Si c'est simple.
Si mon ordinateur ne bug pas, si je ne perds pas mon disque dur, si monsieur m'offre les mises à jour, me fait le cloud gratuit.
Renaissantis, j'imagine que lorsqu'on travaille, lorsqu'on anticipe, comme vous l'avez fait chez BP, donc eh bien, ce prélèvement à la source, vous avez regardé un petit peu ce qui se passait à l'étranger.
Oui, bien sûr.
C'est quoi le bon exemple réussi ? Puis on va voir ça dans un instant. On fera un panorama avec Delphine Liu qui nous attend là.
Bah, ça dépend. Alors le problème, c'est que chaque pays étranger est différent. Donc il est difficile de dire est-ce qu'on va pouvoir, je dirais, calquer la solution française sur les exemples étrangers. Mais je pense que ce qui se fait en Allemagne est assez intéressant.
Ouais, alors c'est vrai que la France est l'un des rares pays de l'OCDE, donc à l'instar peut-être de la Suisse, de l'Italie, de Singapour, à ne pas avoir adopté de retenue à la source. Hein, presque partout ailleurs, c'est la norme. Des systèmes extrêmement différents, peut-être un peu complexes. Panorama signé Delphine Liu.
Pour beaucoup de pays développés, le prélèvement de l'impôt à la source ne date pas d'hier. En Allemagne, il remonte à 1808 en Prusse-Orientale et a été généralisé en 1920. Les entreprises prélèvent directement l'impôt sur le salaire de leurs employés avant de le reverser au lender. Les Britanniques sont prélevés individuellement et non pas par foyer. Avoir des enfants ne permet pas de diminuer le montant des impôts, À l'inverse, le conjoint sans revenu d'un millionnaire peut percevoir des allocations. En Belgique, la retenue sur salaire s'appelle précompte professionnel. Il est directement prélevé par l'employeur et prend en compte situation familiale et tous les revenus, y compris ceux du capital. En Espagne aussi, c'est l'employeur qui effectue la retenue à la source et qui se voit confier des informations plutôt privées, comme le nombre d'enfants ou le montant du crédit immobilier.
Voilà, Delphine New donc pour BFM Business. René Santis, PDG de BP Informatique, quand même, quand on vous écoute... Alors... Probablement, vous l'êtes rassurant vis-à-vis des chefs d'entreprise, mais est-ce que la retenue à la source, c'est pas plus facile à dire qu'à faire, franchement ?
Techniquement, c'est pas très compliqué. Bien sûr, c'est après il faut la mettre en œuvre, mais là encore, on a toutes les ressources qu'il faut. Et puis il faut aussi que les entreprises soient accompagnées. Ça c'est très important. Là, le setup, comme on dit, le changement risque d'être assez long, peut-être. Pour certaines entreprises peu habituées à l'outil informatique, mais on a des distributeurs qui peuvent aider, enfin les distributeurs qui sont proches des entreprises peuvent aider à la mise en route des systèmes informatiques.
Laurent Hizel, avocat fiscaliste, au bout de combien de temps on pourra dire ça y est, la France donc a adopté le système de prélèvement à la source, hein, il faudra combien de mois justement pour se dire allez, la France, à l'instar de tous les pays dont vient nous parler Delphine New, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, ça y est, fait partie des grands de ce monde en matière de prélèvement de retenue à la source.
Vous connaissez mon point de vue. Moi, je dis que cela sera une bonne nouvelle lorsque nous aurons mis à plat le système fiscal. Et je pense que ce sera un formidable outil, la retenue à la source, pour redonner à l'entreprise, aux salariés et à tous les contribuables une visibilité de leur budget. Parce que finalement, au fond, vous le disiez tout à l'heure, on craint pour le pouvoir d'achat, même de manière psychologique. J'ai moins d'argent, je sais que je ne pourrais pas investir autant que je l'aurais souhaité. C'est une bonne chose, mais encore une fois, on fait les choses à l'envers.
Oui. Patrick Coquillet, juste encore l'impact du prélèvement à la source. On l'a vu donc sur les entreprises, et quand on écoute Sophie Dupré, ça n'a pas l'air très très simple. On a vu comment René Santis se prépare avec ses logiciels de paye. L'impact sur les finances de l'État, parce que si j'ai compris donc, les salaires de 2017 ne seront pas imposés, ils ne seront pas recouvrés donc en fiscalité l'année suivante. Il va y avoir un trou dans les caisses de l'État ?
Non, il n'y en aura pas, parce que ce sera linéaire. Hein. En 2016, il y aura les impôts vont rentrer dans les caisses. En 2017, ils vont rentrer dans les caisses. Et en 2018, ils vont rentrer dans les caisses. Ce n'est pas les impôts de l'année.
D'accord, il n'y a pas de décalage.
Non. Mais la question qui est intéressante aussi, c'est le prélèvement à la source, c'est aussi une bonne affaire pour l'État. Parce que c'est censé faire des économies de gestion. Hein. Il y a à peu près 20 000 fonctionnaires des impôts qui gère la collecte. Cette collecte, elle coûte à peu près 1,7 milliard. Donc, il est clair qu'il y aura une économie d'échelle. Alors, de combien ça, personne n'est d'accord. Mais l'État va faire des économies, surtout que, il faut le reconnaître, que les effectifs de Bercy ont pas mal fondu ces dernières années, ça devrait continuer. Donc, ce sera aussi un moyen de récupérer un petit peu d'argent.
Alors, ce 1,7 milliard, justement, que l'État va gagner et cet argent, finalement, que Sophie Dupré, chef d'entreprise, va perdre, 0,4% de la masse salariale.
À minima.
Vous êtes devenu fonctionnaire, c'est ce que vous disiez
oui,
tout à l'heure.
Oui, voilà, c'est ce que m'avait annoncé, c'est ce que M. Sapin nous a annoncé tout à l'heure. Oui, on va remplacer les fonctionnaires de Bercy, mais attendez, il y a quand même un truc aussi qui se passe dans la réalité de tous les jours. C'est qu'une entreprise, aujourd'hui, n'arrive pas toujours à faire face à ses charges, surtout en période de crise. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En priorité, on paye toujours ses salariés, on paye son loyer, voilà. Par contre, l'URSSAF, habituellement, est quelqu'un qu'on ne paye pas forcément tout de suite quand on n'a pas la trésorerie. Donc demain, une entreprise en défaillance, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va avoir du mal à payer son URSSAF, elle va avoir du mal à payer l'impôt sur le revenu du salarié en question. Il y a un mécanisme qui existe en entreprise qui s'appelle l'AGS, 2,2% de notre masse salariale, destiné à faire face aux défaillances des entreprises pour payer le salarié défaillant. Demain, si j'oublie de payer mon fisc ou si j'y arrive pas pendant 6 mois, ensuite je dépose le bilan. Ok, l'État, premier donneur d'ordre, premier prêteur de gage de denier quand on fait faillite. Mais bon, en général, il ne reste plus grand-chose dans les caisses. Alors, qui va payer ? Parce qu'il n'est quand même pas question. Alors, on veut bien appeler 2% de plus à nos salariés, tant qu'on y est. Hein. Enfin, il y a un moment où il faut faire stop. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu a un taux de recouvrement 98%, si je me trompe.
Très élevé, oui.
Très élevé. Donc on change un fonctionnement qui allait très bien pour les finances. Attention.
Laurent Izal, avocat fiscaliste, vous, tout à l'heure, alors, je ne sais pas si vous avez l'esprit mal tourné parfois, mais vous y voyez donc une manœuvre politique en pleine année présidentielle.
En fait,
expliquez-nous justement où se trouverait la malice.
Je ne suis pas paranoïaque. Je me pose la question, encore une fois, de savoir pourquoi on fait ça maintenant et dans ce sens-là. Cela va provoquer une problématique et on va déplacer des débats. On est en train d'imaginer un Parlement qui va s'amuser à dire non, c'est bien, c'est pas bien, alors qu'on sait qu'il y a un problème technique. Vous parliez de la défaillance des entreprises, mais vous savez très bien que le fléau numéro un en France, c'est la fraude fiscale. Il y a de la fraude à la TVA. Il peut y avoir donc de la fraude à l'impôt sur le revenu. Et quand on a un taux aussi incroyable de recouvrement de l'impôt sur le revenu à 98%, quelle est la difficulté? Alors, si parallèlement l'État nous disait que pour pouvoir recouvrer cet impôt, on va diminuer le nombre de fonctionnaires attachés au recouvrement de l'impôt, quelque part on ferait diminuer le déficit. Mais ce n'est pas le cas. Donc on est en train de changer de poste. Je partage le point de vue de Sophie Dupré,
chef d'entreprise. Patrick Coquillet.
Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense
pour une fois.
oui, le prélèvement à la source va quand même permettre de justifier des baisses d'effectifs.
J'espère, non, on espère.
Oui, mais voilà. Il y en a déjà eu des baisses d'effectifs dans la. Non, c'est intéressant ce que vous dites sur l'aspect politique, parce que. Effectivement, il y a peut-être une arrière-pensée des socialistes qui veulent fusionner les deux, hein, impôt sur le revenu et CSG. Donc ça, il faut passer par le prélèvement à la source. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y aura pas d'instabilité fiscale s'il y a un changement de gouvernement de majorité en 2017, parce que tous les leaders de l'opposition, ils sont peu ou prou favorables
au prélèvement à la source. Ouais. Mais tout le monde est favorable, encore une fois. Je suis le...
Non, votre voisine de droite, a priori, non, j'ai pas l'impression. Spontanément, j'ai bien non,
mais tout le monde est favorable, encore une fois, dans la mesure où il y a une logique économique. Et il n'y a pas de logique économique aujourd'hui.
Renaissantiste EBP.
Oui.
Allez-y, alors, faisiez signe.
Oui, bien sûr. Ben, pour moi, il est clair que le prélèvement à la source est quelque chose d'assez favorable. Pas seulement pour EBP, mais parce que ça, on va dans le sens de l'histoire en ce qui concerne tout le potentiel qu'offre l'informatique aujourd'hui avec la dématérialisation, l'informatique dans le cloud, etc. Donc je vais pas.
Faudra du temps pour s'habituer. Voilà.
Voilà. Et donc on a un réservoir de productivité considérable.
Bon, allez, dernière question. Je la pose à Patrick Coquillet et puis on le retrouvera demain, parce que je pense qu'on évoquera la question des fonctionnaires demain dans les décodeurs de l'écho. Vous reviendrez, ça sera la Saint-Patrick, ça sera tout pour vous, évidemment. Deux présences de suite dans les décodeurs de l'écho. Juste la hausse du point d'indice des fonctionnaires. On en saura plus donc demain jeudi. L'extension de la garantie jeune. Que dit Stéphane Le Foll tout à l'heure en Conseil des ministres? Ils seront financés sans fiscalité supplémentaire. Ils ne remettront pas en cause la trajectoire des finances publiques de la France. On peut le croire, franchement.
Ah, ça, c'est la rengaine. Hein. C'est-à-dire qu'on fait des dépenses supplémentaires qui sont gagées par des économies sur des postes existants. Ça, c'était vrai aujourd'hui avec l'augmentation du point d'indice. C'était vrai il n'y a pas longtemps avec la baisse des cotisations des agriculteurs. Juste. Et puis le plan formation. Ouais. Bon,
à chaque fois, on promet des économies, mais bon, à un moment, il y en aura.
Le gouvernement peut dire qu'on s'en est bien sorti en 2015. C'est pas faux, mais c'est pas certain que ça passe en 2016.
Bon, on en parle demain. Les fonctionnaires, justement, oui, est-ce que donner comme ça? Oui, parce que c'est Stéphane Le Foll qui a estimé que, justement, eh bien, l'augmentation du point d'indice, hein, eh bien, enfin, une augmentation de 1% du point d'indice représente un coût d'1,7 milliard d'euros. On verra justement eh bien, quelle sera l'ampleur de cette augmentation du point d'indice. Et on verra si le vote des fonctionnaires vaut presque 2 milliards d'euros, justement, demain, jeudi. Merci à tous. C'est fini pour cette première partie des décodeurs de l'écho. Merci à Laurent Izal, donc, avec nous, avocat fiscaliste, hein. Merci à Sophie Dupré. Bon retour à Clermont-Ferrand. Donc, elle est à la tête de Croustipin. C'est la déléguée nationale de la CGPME. Le PDG de BP Informatique, Renaissantis, avec son logiciel de paye, compte à rebours jusqu'au 1er janvier 2018. Et Patrick Coquillet, évidemment. Dans un instant, on tient question. Pourquoi les grands théâtres, comme ça, eh bien, sont-ils achetés par des chefs d'entreprise? Hein, a priori étranger à ce secteur. Dernier exemple, Jacques-Antoine Grandjean, donc, qui met la main sur les bouffes parisiens. On fera le point donc d'ici 3 minutes avec les décodeurs de l'écho. Bonne soirée.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.